Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou au micro de Mustapha Mamansani de la radio Gaskia Zender, une des radios partenaires du studio Kalangou dans la ville de Zender. Le forum, c'est un rappel, est diffusé via un réseau dynamique de 46 radios partenaires à travers le Niger. À Zender, vous écoutez ce forum sur les ondes de la radio Gaskia 89.5 MHz. Et la radio Choukoura 105.5 MHz. Aujourd'hui, le thème de notre émission portera sur la place et la contribution des femmes dans la vie politique à Zender. Au Niger, les femmes représentent plus de la moitié de la population selon l'Institut national de la statistique. Le pays s'est engagé au début des années 90 dans un processus de démocratisation de la vie publique et la question des droits des femmes est devenue donc une préoccupation majeure pour l'État et les organisations de la société civile. Depuis, le gouvernement a adopté une loi sur les quotas qui prévoit qu'un minimum de 25% des postes électifs et 35% des postes nominatifs soient occupés par des femmes. Aujourd'hui, plus de 30 ans après, on constate une faible représentation des femmes dans les instances politiques et une insuffisance de son leadership, ce qui constituerait un obstacle à la pleine implication de la femme dans la gouvernance. Alors, quel est l'état des lieux s'agissant de la représentation des femmes dans la politique sur le plan national et régional ? Aujourd'hui, quels seraient les obstacles liés à la participation des femmes dans la vie politique et publique dans la région de Zender? Quels sont les enjeux liés à cette participation? Quels sont les défis pour les femmes élues de la région de Zender? Et enfin, pour une bonne gouvernance de ces femmes, quelles sont les perspectives? Pour débattre de ce thème, nous recevons Dr Issoufou Issa, il est sociologue. Docteur, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci bien, Moussami.
Nous avons également Madame Abdelaziz Rabi Soumana, elle est la directrice régionale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant de Zender. Madame la directrice, merci d'avoir accepté notre invitation.
De rien.
Et nous avons enfin Madame Aïchatou Lawali, elle est une actrice politique, elle est une conseillère municipale de Zender. Madame Aïchatou, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci.
Bonsoir à tous. Si vous nous rejoignez ce soir, nous allons parler de la place et la contribution des femmes dans la vie politique à Zender. Aux dernières élections générales qui se sont déroulées au Niger en 2020 et 2021, plus de 7,4 millions de Nigériens étaient inscrits sur les fichiers électoraux, dont 1,5 million d'électeurs pour la région de Zender. C'est la région donc qui consacre le plus grand nombre d'électeurs. Docteur, je vais commencer par vous. Quelle lecture faites-vous de la représentativité des femmes en politique au Niger en général et particulièrement dans la région de Zender?
Merci, Maman Sani. Avant de répondre à votre question, je vous remercie de m'avoir invité à ce débat-là. Je crois que par rapport aux perspectives de la femme, je veux dire que c'est positif. C'est positif dans la mesure où, quand on regarde un peu l'histoire des mouvements féminins du point de vue politique, on constate que ça progresse quand même. Puisque le mouvement politique féminin, si vous voulez, a commencé en 1962 à travers ce qu'on appelle l'Union des femmes du Niger, qui a changé de dénomination en 1974 en devenant l'Association des femmes nigériennes. Et je crois que ce mouvement a donné un peu du tonus et ça a permis aux femmes, en 1990, à l'ouverture de la conférence nationale, d'obtenir 4 postes. Dans l'organisation de cette conférence-là. Et c'est à partir de cela, puisque la conférence nationale a déclenché, si vous voulez, le système démocratique. Donc c'est à partir de là que les femmes se sont intégrées. Et elles ont le droit de l'association. Vous allez voir par la suite, là, il y a plusieurs associations de femmes qui étaient créées dans le sens justement de la lutte d'ordre social, politique, économique, religieux, etc. etc. C'est pourquoi vous allez entendre qu'on parle des organisations des femmes comme Congafen, Mata Massoudou Bara, etc. etc. Et je crois qu'aujourd'hui, politiquement, puisque c'est de ça qu'il s'agit, vous allez entendre qu'on parle de femmes amazones, si vous voulez. Femmes Lumana, femmes PNDS, femmes Kishinkasa, etc. etc.
Tous les partis politiques ont des structures de femmes.
Ont pratiquement des structures de femmes. Je pense que là, c'est un point points à gagner déjà. Mmh. Alors, maintenant, par rapport aux perspectives, quand on regarde un peu le chiffre, même si on n'a pas exactement des chiffres au niveau de la région, puisque les choses ne sont pas tellement organisées qu'on le pense, on regarde de 2003, de 2004, par exemple, en 2000, à la période, à la date d'aujourd'hui. Oui. Donc, vous allez voir qu'il y a une certaine représentativité relative. Les quotas étaient un peu augmentés. Maintenant, puisqu'il y avait l'adoption de la loi des quotas, qui prévoyait en 2000, je crois, 10 et 15 pour le poste respectivement électif et nominatif. Maintenant, qui a été révisé en 2016 à 25 et je crois 30. C'est ça, non? Alors, je crois que c'est déjà bien. Aujourd'hui, quand on regarde la configuration au niveau national, au niveau de l'Assemblée, d'abord avant de revenir au niveau régional, nous avons aujourd'hui 50 femmes sur 160. Donc, je crois que les perspectives sont bonnes. Mais, bien qu'elles soient bonnes, il y a des défis qui sont liés à ces questions.
Nous allons parler de tous ces défis-là au cours de ce débat. Nous allons revenir à vous, Madame la conseillère. Quel est le taux de participation des femmes dans cette partie du Niger? Donc, je parle de Zender, qui enregistre le plus grand nombre d'électeurs inscrits sur le fichier électoral.
Bien, merci, Mama Sani. Donc, nous vous remercions de nous avoir invités sur ce plateau. Concernant donc la participation des femmes, je dirais que c'est une participation très impressionnante. Je n'ai pas le chiffre proprement dit, mais quand même, nous sentons. Il y a les femmes qui se sont engagées à se présenter comme candidates, les femmes qui ont osé chercher même des postes de responsabilité, des femmes qui sont sorties, qui se sont battues dans les campagnes, qui ont quand même arraché des sièges. Elles ont pu avoir des sièges. Je crois que les femmes, de façon globale, ont activement participé à ces élections.
Selon vous, quels sont les obstacles à la pleine participation des femmes à la politique et à la vie publique au Niger?
Oui, nos moyens sont très limités. Et aussi, vous savez, l'égoïsme des hommes, ça joue toujours. Nous assistons à ce genre de discrimination. Quand on est femme, parfois c'est à des moments où on ne s'attendait pas qu'on tienne des réunions. Les femmes elles-mêmes, il y a des divisions entre les femmes, ce qui fait que certaines se découragent vite et se replient. Mais aussi, les femmes, elles sont trop hésitantes. Sinon, les femmes, de la manière qu'elles sortent pour battre campagne, de la façon dont elles sortent pour quand même déposer leur candidature, et de la façon dont elles se battent. Donc, il n'y a pas de raison qu'on finisse qu'il y a un faible taux de femmes élues ou de femmes nommées. C'est un peu ça le paradoxe. Vous savez, il y a des façons de faire. Souvent, on ne veut pas les têtes pensantes. Il y a cet aspect. Parce que certaines vont vouloir dire non à certaines décisions des hommes. Et l'homme, vous savez, il est ce qu'il est. Il veut toujours être le patron, comme chez lui. Donc, si toutefois, tu ne te replies pas, tu ne te plies pas à sa volonté, tu as tous les problèmes du monde.
Y a-t-il des obstacles d'ordre sociaux? Par exemple, le mari qui refuse à sa femme de...
Les femmes,
la société qui voit mal le fait que la femme soit...
Oui, il y a cet aspect aussi qu'on doit quand même noter. Et où vraiment on se dit, non, elle là, pourquoi elle va être avec telle ou telle personne? Donc, il y a cet aspect qui joue, qui fait que les femmes se désengagent. On leur casse le moral. Il y en a, au départ, vous allez les voir se battre, dire qu'elles vont faire, qu'elles veulent être mères, mais au finish, vraiment, c'est pas ça. Il y a donc des démotivations qui proviennent de la part de la société. Et on se dit aussi pourquoi une femme va être à la tête d'une telle ou telle institution. Il y a toujours aussi ces genres de mentalités.
D'accord. Madame Abdelaziz Rabi Soumana, directrice régionale de la promotion de la femme de Zender, pourquoi, selon vous, la timide participation des femmes dans la politique et la vie publique au Niger?
Merci. Maman Sani, je me joins quand même aux autres pour vous remercier pour l'invitation. Effectivement, en tout cas, certains parlent de timide participation, c'est relatif. Parce qu'avant, effectivement, il y avait cette timide participation des femmes, je dirais avant. Parce qu'aujourd'hui, les femmes sont sorties. Et cette timide participation s'explique, n'est-ce pas, à travers différents facteurs. Quand vous prenez l'éducation, le moindre accès à l'éducation, où beaucoup de femmes n'ont quand même pas accès à l'éducation, à l'information, à la formation, c'est vraiment un gros obstacle. Il y a les présentateurs socioculturels, où quand vous regardez dans le ménage, c'est la femme qu'encombre vraiment tous les travaux domestiques, les tâches ménagères, la femme n'a pas le temps. La femme n'a pas le droit même de lever la voix. Même quand tu es dans une assemblée générale, généralement les femmes ne parlent pas. Parce qu'on dit que la voix de la femme ne doit pas porter l'un. Encore vraiment la société, les coutumes, les us et coutumes là, qui pèsent sur la femme. Nous avons également l'insuffisance des moyens financiers qui a été évoquée par mon prédécesseur, parce que la politique, surtout pour être leader, pour briguer certains postes, il faut avoir les moyens financiers pour battre campagne. Et malheureusement, c'est les hommes qui ont ces moyens-là, les femmes n'ont généralement pas les moyens. Et nous avons le réseau de solidarité où entre femmes, vraiment, les femmes se jettent de la peau de banane. Et ça, c'est le problème là entre femmes. C'est généralement les hommes qui créent ces problèmes-là pour simplement déstabiliser
La poésie. Mais c'est des bonnes guerres.
Nous avons, en tout cas, la méconnaissance de leurs droits. Les femmes méconnaissent leurs droits. Tous ces facteurs font que vraiment, il y a une timide participation. Aujourd'hui, Dieu merci, les femmes ont commencé quand même à sortir, à s'affirmer et demander leurs droits.
À s'imposer.
Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, à l'Assemblée, nous avons, au niveau de la région, nous avons seulement 6 femmes députées sur les 33. Donc, c'est vraiment insignifiant. Vous voyez, comme souvent je l'ai dit, vraiment, il y a un problème. C'est les femmes qui sont le bétail électoral. Parce que, vous l'avez dit, plus de 1,5 million qui se sont enregistrés au niveau de la région des Andes. Ouais. Majoritairement des femmes. Mais malheureusement, après les élections, on a bien vu que ce sont les femmes qui se sont retrouvées, n'est-ce pas, au second plan.
Alors, quelles possibilités de promotion le cadre institutionnel offre aux femmes nigériennes?
Effectivement, le Niger, quand même, pour redonner la place à la femme, une place de valeur, quand même, a ratifié d'abord des textes internationaux. Parmi les textes internationaux que nous avons et régionaux, nous avons la CEDEF, qui est la Convention pour l'élimination des violences qui sont faites aux femmes, parce qu'on sait que les femmes sont beaucoup de temps sujet de victimes de violences. Donc nous avons les politiques genre et les politiques sectorielles, donc où l'État quand même a donné une place en tout cas importante à la femme.
C'est ça.
Nous avons également toujours le renforcement des capacités des femmes, surtout leaders, pour leur participation à la vie politique et publique. Au niveau international, nous avons la résolution 13, 25 et 22, 50 des Nations Unies que l'État a ratifiée et qui sont en train d'être vulgarisées. Nous avons la loi sur le quota que l'État a pris, n'est-ce pas, pour quand même essayer de
promouvoir
la femme. Beaucoup de renforcements ont été faits, surtout pendant au moment des élections, pour que quand même que les femmes soient quand même conscientes, qu'elles s'affirment comme des hommes.
C'est ça.
Le renforcement de leur leadership.
Madame la conseillère, à votre avis, les femmes disposent-elles d'atouts particuliers pour la politique?
Atouts particuliers, ce sont les dispositifs que madame vient de citer. Donc ça met les femmes à l'abri d'injustice. S'il n'y avait pas ces dispositifs, donc vous allez constater que le nombre n'allait pas atteindre ce chiffre que nous avons aujourd'hui.
C'est ça.
Donc, autre atout, vous savez, l'État du Niger, à travers ses partenaires aussi, fait des offensives pour trouver à ces femmes les moyens pour quand même pouvoir les aider donc à couvrir les campagnes, à être élus, à faire convenablement donc leur mission de et d'élection. Donc, je pense que c'est une très bonne chose si les femmes essaient donc de s'engager, si elles s'affirment, bien sûr. C'est ça, c'est là où le bât blesse. Si les femmes s'affirment et si elles s'engagent, en tout cas, les moyens ne manqueront pas. De nos jours, Dieu dit que il faut t'élever, je vais t'épauler. C'est souvent ça. Si toutefois tu n'essaies pas donc de faire un effort, tu vas toujours rester là où tu es. Je pense que les femmes ont les atouts nécessaires pour quand même promouvoir leur leadership, aller en avant, donc trouver donc ceux qui la place qu'il doit leur revenir du droit. Hein? On a les mêmes diplômes, on a les mêmes compétences, donc on peut quand même valablement assurer toutes les tâches qui peuvent être données à l'homme. Mais malheureusement, toujours il y a des préjugés, dire ah, une telle ne peut pas, une telle parce que, ou encore on se cache derrière certaines faiblesse, par exemple, l'état de grossesse ou bien le mari, on peut profiter de lui pour quand même amener des obstacles pour vouloir empêcher à la femme de s'épanouir dans ce qu'elle est en train de faire. Sinon, vraiment, la femme a tous les atouts.
Oui. Docteur, donc, je reviens à vous. Quelle est l'importance de la participation politique des femmes? Quels sont aujourd'hui aussi les atouts des femmes en politique à Zander?
Les atouts institutionnels. Tout à l'heure, madame la directrice a fait une genèse. Mm-hmm. Ça, c'est des atouts vraiment qui sont cadrés au niveau international et au niveau national. Mm-hmm. Elles sont vraiment accompagnées. Et vous allez voir que même dans le cadre de projets, les femmes sont du tout visées pour qu'elles soient visées, même sur le plan politique. Mm-hmm. Mais aussi au niveau national, si vous voulez, l'atout, c'est surtout la loi de quotas. Pourquoi la loi de quotas, ça veut dire qu'elle mérite ou sans mérite. La femme a mérité ou la femme n'a pas mérité. Elle a au moins 25% pour le poste électif et 30, vous avez dit 30 ou 35% de postes nominatifs. C'est vrai au niveau de postes, si vous voulez, électifs, c'est plus ou moins respecté parce que ça passe dans la main de la justice. Ça, c'est contrôlé. Mais pour le poste nominatif, quand j'ai parlé des défis là, ça fait partie peut-être des défis des femmes. Là, ce n'est pas respecté parce qu'il n'y a aucun dispositif qui est mis pour effectivement contrôler si le quota là est bien respecté. Mais aussi, un autre atout, c'est que du point de vue social, les femmes ont plus de réseaux. Vous allez voir les femmes, elles ont, comment on appelle ça, vos réseaux de tontines, vos réseaux de mariage, les réseaux de sociabilité que vous créez. Vous pouvez le mettre en œuvre pour justement que ça soit du point de vue positif politiquement pour vous. Je vois aussi que les femmes, en réalité, participent plus lors des élections. Parmi les votants, il y a plus de femmes qui votent. Quand vous partez au niveau des bureaux, vous allez voir c'est pratiquement des femmes, surtout dans les centres urbains. Même au niveau dans les centres ruraux, vous allez voir qu'il y a beaucoup de femmes qui participent justement à ces élections-là. Je pense que c'est des atouts. Maintenant, peut-être il faut savoir organiser ces atouts-là. Parce que souvent, ça profite aux hommes au lieu que ça profite aux femmes. Quand tout à l'heure, tantôt parlait du fait que les femmes ne sont pas du tout ensemble, je ne sais pas, elles sont divisées, elles ne sont pas unies, je crois que c'est un peu cet aspect-là. Il y a aussi cet aspect-là dedans. Parce que normalement, si les femmes sont organisées, compte tenu de leur nombre, compte tenu de leur forte participation, au niveau des élections, je pense qu'elles peuvent gagner. Vraiment, c'est de très bonnes perspectives. Peut-être que ça va venir au fur et à mesure, puisque ça commence à évoluer, mais l'évolution, elle est plus ou moins lente. On minimise encore souvent la femme, malgré que ça évolue. On minimise encore la capacité de la femme, évidemment, à œuvrer dans les domaines politiques.
Dans le cadre des postes nominatifs, il y a certains postes où la femme ne peut jamais, peut-être, entre guillemets, avoir au Niger, par exemple, puisque c'est toujours ministre de la promotion de la femme. Il n'y a pas de ministères importants qui sont gérés par les femmes, à mon avis.
Oui, justement, je partage le même avis. Parce que, comme vous voyez, même depuis même les partis politiques, là où on met les femmes, dans la formation du bureau des partis politiques, les places là qu'on réserve aux femmes sont des places qu'on doit évidemment réserver aux femmes. Parce qu'on est chargé des affaires féminines. Ça, il faut forcément une femme. Vous allez voir, c'est la même chose quand vous remontez même en haut.
Il n'y a pas de ministre de défense, premier ministre, tout ça.
Il y a peut-être ces complexes-là. Peut-être on minimise encore souvent la femme, malgré que ça évolue. On minimise encore la capacité de la femme, évidemment, à œuvrer dans les domaines politiques. Mais je crois que et ça va évoluer, puisque cette année, vous avez le ministre de l'Environnement, c'est ça, non? Ça a plus ou moins changé.
Ça a changé.
Les choses sont en train de changer parce que les femmes elles-mêmes luttent. Luttent. Il y a quand même des femmes qui luttent. Même si par ailleurs, de la femme. Voilà, c'est ça. Donc ça a changé un peu le truc, puisque au niveau de la population, là, c'est géré par le ministère de la Santé. Donc l'environnement, bon, je crois que c'est un secteur aussi intéressant.
L'énergie.
Où les femmes doivent, de l'énergie, tout ça là. Ça change un peu. Ça change.
Du point de vue intellectuel, la femme peut-elle gérer les affaires politiques?
Pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein? On a les mêmes diplômes, on a les mêmes compétences. Donc on peut quand même valablement assurer toutes les tâches qui peuvent être données à l'homme. Mais malheureusement, toujours il y a des préjugés, dire ah, une telle ne peut pas, une telle parce que, ou encore on se cache derrière certaines faiblesse, par exemple, l'état de grossesse ou bien le mari, on peut profiter de lui pour quand même amener des obstacles pour vouloir empêcher à la femme de s'épanouir dans ce qu'elle est en train de faire. Sinon, vraiment, la femme a tous les atouts. Elle a tout.
Madame la directrice, tout à l'heure, vous avez parlé au niveau de l'hémicycle de l'Assemblée nationale de 6 femmes pour gender. Alors, quels pourraient être les avantages d'une forte participation, d'une forte présence féminine dans les instances de prise de décision?
Mais avant de répondre à cette question, permettez-moi de revenir sur le niveau institutionnel, les efforts qui sont déployés.
D'accord.
Parce que j'ai un peu oublié la scolarisation, où l'État est en train de faire beaucoup d'actions pour maintenir les filles à l'école. Parce que, en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Tout à l'heure, là, j'ai parlé de moindre accès à l'éducation, où vraiment, c'est les filles, surtout les filles, la scolarisation des filles au Niger laisse à désirer.
C'est ça.
Donc, vraiment, là, il y a des grandes actions qui sont en train d'être quand même faites à cet égard.
C'est ça.
Au niveau institutionnel.
Mm-hmm.
Il y a également, donc, la stratégie de lutte contre les violences basé sur le genre. Même si on dit violence basée sur le genre, on sait que majoritairement les violences sont axées sur les femmes et les hommes. Donc aujourd'hui également, il y a toute une, en tout cas, beaucoup d'actions, des stratégies, des interventions qui sont en train d'être faites, n'est-ce pas, pour que les femmes luttent elles-mêmes contre ces violences-là dont elles sont victimes. Donc, pour revenir à votre question, effectivement, j'ai dit que donc, l'Assemblée nationale du Niger compte cette année 50 femmes, n'est-ce pas, sur 66. Au niveau de la région, effectivement, on a fait l'exercice également. Nous avons trouvé 6 députés. 6 députés, c'est insignifiant sur 33. 6 députés pour la région. C'est vraiment, en tout cas, déplorable pour nos femmes quand on sait que ce sont les femmes qui ont mené le combat.
Qui ont rempli les bureaux de vote.
Ce sont les femmes qui ont fait tout ça. Mais quand même, en tout cas, pour les avantages d'une forte participation des femmes, non seulement j'avais dit qu'il y a une méconnaissance des droits. Donc, il y aura, si les femmes étaient quand même majoritairement représentées, en tout cas, elles vont quand même lutter pour que les textes en vigueur des femmes, les lois en faveur de la femme, soient quand même vulgarisés, parce que c'est de ça qu'il s'agit.
Oui.
Le Niger prend beaucoup de textes au niveau international, au niveau régional, au niveau national. Malheureusement, ces textes-là sont méconnus. Ces textes-là sont dans les coffres, parce que quand ça n'avantage pas les autres, là, ils ne les vulgarisent pas. C'est un problème. Et un autre avantage, quand c'est des femmes, et c'est au niveau des politiques, les politiques, soit sectorielles, même des politiques au niveau des PDC, des fonds communautaires ou PDR. Donc, souvent, il y a les besoins des femmes qui ne sont pas pris en compte.
Tout à fait.
Alors que le besoin d'une femme est différent, n'est-ce pas, de celui d'un homme. Donc, quand les femmes sont représentées, donc forcément, leurs besoins spécifiques là vont être pris en compte dans les politiques. La présence des femmes donc aussi va permettre l'accès à l'information, parce qu'on a dit que les femmes ne sont pas informées, elles n'ont pas accès à l'information.
C'est ça.
N'est-ce pas? Donc ça va favoriser ça à la formation, donc affirmation de soi. Donc les femmes vont pouvoir quand même être informées de tout ce qui se passe, n'est-ce pas, au niveau politique et prendre
des décisions.
Donc voilà pourquoi nous sommes en train de lutter pour que les femmes soient représentées au niveau de toutes les instances.
Voilà, donc en termes de perspective, quelles sont les actions que doivent mener les femmes leaders en vue donc d'accroître la participation politique des femmes?
Nous avons parlé de l'adoption et vulgarisation des textes favorables à l'épanouissement. Les textes sont là adoptés, mais même la vulgarisation pose problème.
C'est ça.
Nous avons également pensé à sensibiliser les communautés sur le maintien des filles à l'école. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de filles sont scolarisées, surtout au niveau primaire. Vous allez voir, le taux, c'est kiff-kiff. Mais c'est le maintien qui pose problème. Parce que les filles plus loin sont confrontées au mariage, au mariage des enfants, au mariage précoce, donc tout ça, c'est un problème. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'État, comme je l'ai dit, est en train de réfléchir, à penser, à trouver des stratégies de maintien de ces filles à l'école.
C'est ça.
Nous allons sensibiliser les communautés sur les VBG, les violences basées sur le genre et l'adoption des comportements favorables. Parce que les violences, tous les auteurs de violences, quand vous faites l'analyse, ce sont les hommes qui font des violences généralement sur les femmes, sur les enfants. Vous voyez? Donc c'est très difficile en tout cas de voir. Aujourd'hui, on en trouve de voir une femme qui fait une violence sur un homme. Mais c'est généralement le contraire. C'est toujours les hommes qui sont les auteurs. Et les violences là, c'est généralement dans la famille, dans le foyer. Vous allez voir les hommes qui battent les femmes, ou bien un cousin qui viole une cousine, ou bien quelque chose. Tout ça, donc vous voyez. Donc nous allons donc faire des sensibilisations à cet égard. Nous allons créer des cadres de concertation de promotion de la femme à tous les niveaux. Nous avons ça pratiquement en ce qui concerne l'enfant, les comités. Nous avons mis des comités villageois de protection de l'enfant au niveau village, au niveau commune, au niveau département et de région. Donc nous allons faire la même chose pour la femme, que les questions des femmes soient quand même discutées au sein d'une structure pour trouver les solutions. Donc vraiment nous allons faire respecter les lois et les textes en vigueur. Parce que les textes sont là pour le Niger. Les lois sont là, mais malheureusement, l'application pose problème.
C'est ça.
Donc, nous allons faire des plaidoyers, en tout cas, pour les faire respecter. Nous avons, donc, poursuivre la lutte contre le mariage des enfants. C'est vraiment un phénomène. Le mariage des enfants dans les femmes. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que les enfants, qu'ils soient garçons ou filles, se marient très tôt. Donc, notamment les filles. Les filles, au lieu de... En tout cas, nous, notre génération, notre souci, c'est d'étudier pour un beau jour réussir.
C'est ça.
Mais aujourd'hui, les filles, en tout cas, leur souci, c'est le mariage. Leur souci, est-ce le mariage, là, c'est un blocage pour les études. On ne peut pas avoir, on dit, le beurre et l'argent du beurre. C'est un choix qu'il faut faire. Moi, je pense que le mariage, tôt ou tard, là, on va quand même le faire. Mais les études, il y aura un moment où tu ne peux plus quand même.
Tout à fait.
Et avant, auparavant encore, il y a des textes, des lois qui sont là. Et par exemple, la circulaire de Kunchi qui protégeait les jeunes filles. Si nous, on avait étudié à l'époque, c'est parce qu'il y a une loi qui nous protégeait. Quand un professeur ou bien un homme touche une fille, c'est la prison. Donc, aujourd'hui, même si ces textes-là sont là, ils ne sont pas appliqués. Donc, ou bien même si l'État, il y a une loi qui protège la jeune fille à l'école, mais cette loi-là a été attaquée par les oulémas. Vraiment, je suis très quand même... Donc vraiment, nos oulémas même doivent changer de comportement. Il faut qu'on avance. Il faut vraiment une large sensibilisation à leur endroit. Parce que le mariage des enfants-là, ce sont eux qui ont amené ça. Sinon, avant, c'est vraiment... Le président Feu Kondje a interdit le mariage des filles scolarisées jusqu'au niveau terminal. Quand c'est les écoles professionnelles, c'est jusqu'à la fin de la formation. Quand c'est le lycée que tu prends, que tu es lycéen, c'est jusqu'à après le baccalauréat. Et aujourd'hui, vous voyez, une fille de CM2 même peut se marier. C'est vraiment une large sensibilisation qu'il faut faire à l'endroit des parents, à l'endroit de toute la communauté, à l'endroit y compris les oulémas, les chefs traditionnels également. Surtout pour que le cri de cœur du président de la République, parce que un de ses piliers, c'est restaurer l'éducation, notamment des jeunes filles. Donc si nous voulons accompagner vraiment, en tout cas l'État, dans cette démarche, il faudrait que nous changions nos comportements.
Madame la conseillère, au sortir des dernières élections communales et régionales, combien de femmes a-t-on enregistré dans les 55 communes de Zender? Et quelles sont les perspectives qui s'offrent à la femme politique? En gros, quel est le quota?
Le nombre, je n'ai pas ça en tête. Oui, mais quand même, je crois que le nombre, le chiffre-là se limite au quota des femmes, les 25%. Donc, vous faites le cumul du nombre de conseillers. Vous faites la règle de 3, vous allez trouver le nombre de femmes qu'il y a au niveau de toute la région.
Alors, quelles sont les perspectives qui s'offrent à la femme politique?
Les perspectives sont bonnes et il faut quand même penser à vraiment respecter les textes qui sont en vigueur, les textes internationaux et nationaux. Il faut beaucoup les respecter. Mais aussi, il y a un aspect qu'il faut quand même voir, c'est celui donc de la conscientisation même des femmes. Je suis d'accord avec madame quand elle dit qu'il faut penser à la scolarisation de la jeune fille, certes, mais même parmi les intellectuels. il y en a qui sont quand même hésitantes pour leur participation politique. Et avec cela, on ne va pas aller loin. Donc il faut conscientiser, faire comprendre à ces femmes que vraiment, elles ne peuvent que se retrouver qu'à travers la politique. Il faut qu'elles rentrent dans le domaine de prise de décision. Tant qu'on ne fait pas les choses avec elles, ça ne marchera pas. Les hommes ne vont jamais penser, ils ne vont jamais lutter pour les femmes. C'est la femme qui doit lutter à la place de la femme, pas l'homme à la place de la femme. Donc c'est très important. Et au-delà de ça, donc, comme l'a dit docteur, le cercle donc du réseau, et je crois que madame la directrice doit se pencher sur la création des réseaux des femmes de tous bords. Donc épauler la femme d'où qu'elle provienne, donc du début de l'établissement des listes jusqu'aux élections, jusqu'au partage des postes nominatifs. Il faut qu'il y ait un cadre, il faut qu'il y ait un réseau qui doit suivre de près. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si aujourd'hui ce réseau existait, les choses n'allaient pas être comme ce que nous venons de constater. Regardez bien au niveau même de la ville.
Oui, mais ce qu'il faut, excusez-moi, mais ce qu'il faut peut-être demander, peut-être c'est l'application du quota au niveau des conseils municipaux. Au niveau des conseils municipaux, si on prend un maire, on prend une mairesse. Quand on prend une mairesse, donc c'est au niveau même. Au niveau
c'est parce
même
que la justice n'est pas là pour suivre ça.
Il faut étendre l'application.
C'est pourquoi après les élections, là, c'est fini.
Au niveau des communes.
Mais là, il va falloir des textes qui vont ameubler cela, puisque maintenant, non, quand vous prenez.
C'est électif. L'application des quotas.
Mais seulement, il faut qu'il y ait un contrôle, un dispositif qui va permettre effectivement de faire appliquer.
Mais les textes disent de mettre tel quota pour la femme. Mais les textes n'imposent pas au conseil, par exemple, dans l'administration, de prendre le genre en considération.
En principe, c'est une imposition.
Non, il n'y a pas ça dans les textes.
En principe, c'est une imposition dans les textes. Mais c'est au niveau des partis politiques que les gens sont en train d'être joués. Parce qu'en termes de partis politiques, ils ont déjà fait leur calcul. C'est un tel qui va être maire, c'est un tel qui va être ceci, ou je ne sais pas. Donc, c'est un problème. Donc, le respect, la cause problème, surtout. Normalement, quand les élections sont terminées, on dit par exemple, députation, c'est terminé. On impose à chaque parti d'amener ton nombre de femmes, ton nombre d'hommes. Ça, c'est une obligation.
C'est la loi qui le dit.
C'est la loi qui le dit.
Voilà.
Normalement, pour le poste même, pour le maire, là, ça doit être comme ça. On doit imposer. Puisque seulement, bon, souvent le problème, c'est au niveau du conseil, au niveau des conseillers, on ne sait pas exactement qui va être maire en avance. On ne sait pas. Et puis, on vient, on vote. C'est après avoir dépouillé, on comprend que voilà, c'est un tel qui est élu. Donc, c'est là le problème. Mais sinon, on pourrait imposer tel arrondissement, ça doit être une femme. Tel arrondissement, ça doit être. Évidemment, c'est une discrimination.
Les hommes, je vous dis, sont trop égoïstes. Si vous regardez par exemple la configuration au niveau de la ville de Zinder, vous prenez la mairie centrale, la gouvernance c'est 3 hommes, il n'y a aucune femme. Vous partez au premier arrondissement, c'est respecté. Deuxième,
sur les conseils,
ça dépend des animateurs. Mais si la justice est regardante, vraiment, je crois.
Voilà, c'est juste ça, c'est cela.
Sinon, ça va continuer.
Mais la femme ne peut pas lutter seule, il faut que la justice intervienne.
C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il faut créer un cadre qui doit suivre. S'il y avait ce cadre, je crois que
avant
les élections ou encore pendant les élections. Donc, ce cadre peut siéger, pourquoi pas.
Voilà. S'il vous plaît, le cadre existe. Parce que nous avons... Le cadre s'appelle l'Observatoire National du Genre.
Voilà.
Observatoire National du Genre, c'est un cadre qui doit être indépendant, qui doit quand même veiller à l'intégration du genre au niveau de... En tout cas, au niveau de ces instances-là. C'est ça.
Madame la conseillère, et la directrice nous informe qu'il y a un cadre, l'Observatoire National du Genre. Nous sommes au niveau local. Est-ce que vous sentez une action de ce cadre-là au niveau de Zinder?
En tout cas, le cadre-là, il est amorphe, il ne vit pas. Nous ne l'avons jamais senti, sinon il y a des plaintes qui pouvaient atterrir.
Vous-même, vous avez été candidate?
J'ai été candidate, oui.
Pour le poste de maire?
Pour le poste de maire, et ça n'a pas marché. Sur les 5 maires, je voulais être la 5e, malheureusement. les hommes ont eu le dessus, j'ai décliné. Et voilà comment les choses se sont passées. S'il y avait l'observatoire, il pouvait être là, au moins, ou bien faire des réclamations, même par la suite. Malheureusement, on ne l'a même pas senti. Sinon, nous, on pouvait quand même solliciter leur présence pour, pourquoi pas, pour appuyer les femmes. Ne serait-ce qu'à être vice, première ou deuxième vice, comme le cas ici au niveau de Bobantabki, où il n'y a pratiquement que des hommes. Au niveau du 3e arrondissement, où il n'y a pratiquement que des hommes.
Au niveau de la ville aussi.
Au niveau de la ville, je vous parle bien sûr de la ville.
De la ville, le conseil de ville de Zender, il y a deux vices, tous les deux vices.
Bon, et aussi au niveau du conseil.
Le conseil régional.
Même le conseil régional.
Hein. C'est la même chose. Vraiment.
L'observatoire là est...
Il n'a pas sa raison d'être.
Oui, l'observatoire là, c'est un organe indépendant que l'État quand même a bien mis en place pour veiller au respect du genre dans les politiques au niveau de toutes les instances. Donc c'est ça. En effet, normalement, l'observatoire là doit quand même veiller à ça, après faire des observations.
C'est ça.
Et déposé au niveau des services compétents dans la justice. Sinon, l'observatoire n'a pas pour quand même mandat d'arrêter quand même le processus.
C'est ça.
Il laisse le processus courir, mais à la fin, il va faire des réclamations.
Ça va être une bonne chose.
Mais malheureusement, on n'a pas senti, en tout cas, la
une pleine implication de ce cadre dans les affaires. Alors, docteur, j'ai fini par vous.
Docteur Issoufou, au vu de ces chiffres, quel avenir politique se dresse devant la femme nigérienne?
Je crois que les perspectives sont bonnes. Pourquoi elles sont bonnes? Parce que juridiquement, les cadres institutionnels au niveau national, comme on l'avait dit, au niveau national, favorisent largement les femmes. Mais je crois que aussi les femmes ne doivent pas compter surtout sur ce que la loi leur offre en termes de discrimination positive. Elles doivent faire en sorte qu'elles puissent combattre, elles doivent être combattantes. Lorsque vous avez commencé à parler, j'ai senti qu'en vous, vous avez déjà compris en tant que femme vraiment ce qu'il faut faire politiquement pour que les femmes puissent émerger. Mais il faut aussi étendre, selon ma logique, peut-être l'éducation de la femme. Peut-être ça fait partie également des perspectives. Si réellement dans la politique actuelle, le gouvernement est en train de mettre en œuvre un programme ou une stratégie qui va permettre évidemment de retenir les femmes, les filles à l'école jusqu'à un certain niveau, je crois que c'est une très bonne chose. Et je crois que le gouvernement a déjà commencé à construire des internats dans certaines localités, au niveau du collège. D'accord, ça c'est l'une des perspectives. Une deuxième perspective, au fur et à mesure qu'on avance, vous avez vu, les chiffres augmentent. Ça veut dire que si on a aujourd'hui 50 députés au niveau national, alors que prochainement, on pourrait avoir probablement plus. Puisque à chaque fois, au fur et à mesure, les femmes voient l'exemple à travers leurs collègues, que vraiment c'est possible d'émerger politiquement, il n'y a pas que les hommes. Troisième perspective, c'est que je suis en train de comprendre que les femmes ont beaucoup plus d'avantages que les hommes. Pourquoi elles ont plus d'avantages que les hommes? Si elles arrivent à s'organiser de plus en plus, ça veut dire qu'elles vont obtenir plus de voix que les hommes. Je ne suis pas en train de dire que les femmes doivent obligatoirement soutenir les femmes et les hommes doivent soutenir les hommes. Je ne fais pas cette discrimination-là. Je suis en train de dire que si vraiment les femmes vont s'entraider, parce que la logique voudrait dire que si une femme, on sait qu'elle est compétente, même les hommes peuvent la soutenir. Si un homme est compétent, évidemment, même les femmes peuvent les soutenir. Mais je suis en train de voir qu'elles ont vraiment déjà des dispositifs qui sont là en termes de dans les réseaux sociaux qu'elles sont en train de créer pour qu'elles puissent vraiment encourager certaines des femmes qui ont l'ambition.
Nous en venons à la fin de ce débat. Nous avions discuté sur la place et la contribution des femmes. Vous voulez ajouter quelque chose, madame la directrice? Donc, oui, allez-y.
Bon, moi, en fait, une des perspectives, c'est vraiment l'autonomisation de la femme, accélérer l'autonomisation de la femme. Si de l'autre côté, l'État met l'accent sur le maintien des jeunes femmes à l'école, au niveau des femmes, que l'État accélère, parce que l'autonomisation de la femme, aujourd'hui, vraiment, c'est un gage, n'est-ce pas? Parce que quand la femme est quand même autonome, elle est souveraine, elle a quand même ses propres moyens financiers, quand même, elle peut...
Ça peut aller.
Ça peut aller.
C'est donc ici que nous fermons ce débat. Nous avions discuté, comme je l'ai dit tantôt, sur la place et la contribution des femmes dans la vie politique à Zender. On retient qu'un arsenal juridique et institutionnel protège les femmes au Niger. Le quota est surtout respecté sur les postes électifs, contrairement aux postes nominatifs. Les défis pour la femme en politique sont énormes, à commencer par les stéréotypes sociaux, la discrimination au sein des instances politiques, le manque d'union des femmes, entre autres. Des meilleures perspectives s'offrent à elles. Nous étions avec Dr Issouf Issa. Il est sociologue, il a travaillé également sur la participation politique de la femme à Zender, où il a écrit un article. Nous étions également avec Madame Abdelaziz Rabi Soumana, directrice régionale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant de Zender. Et enfin, Madame Aïchatou Lawali, actrice politique, conseillère municipale. Merci et au revoir.